Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant, Festival International du Film de Muret, avec Little Jaffna. Bonjour Grégor.
Et bonjour.
Bonjour Maëlane.
Bonjour Vanessa.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour.
Voilà, une nouvelle semaine qui commence. On a très très envie de vous parler cinéma et je vais revenir au Festival International du Film de Muret. C'est un festival qui a lieu en novembre. Oui, vous avez bien entendu. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir en avant-première le film Little Jaffna. Ben oui, il y a 51 film en avant-première au Festival International du Film de Muret. C'est vraiment un cadeau qu'ils nous font. Alors aussi bien des films documentaires que des films de fiction. Mais alors franchement, à chaque fois, il y a une telle sélection qu'on passe un excellent moment. Bon, bien sûr, on peut pas voir tous les films. Il faut choisir. Il y en a quelques-uns qui sont... double projection et d'autres, il y a qu'une simple projection. Donc là, ils font faire son choix et t'es là, tu tires des fois à pile ou face. Ce qu'on a nous la chance, c'est qu'il y a des invités qui viennent au Festival International du Film de Muret, des réalisateurs qui viennent accompagner leurs films. Et ça a été le cas de Laurens Valin qui est venu présenter Little Jaffna.
Le quartier de Little Jaffna, à Paris, est le cœur d'une communauté taboule vibrante où Michael, un jeune policier, est chargé d'infiltrer un groupe criminel connu pour extorsion et blanchissement d'argent au profit des rebelles séparatistes au Sri Lanka. Mais à mesure qu'il s'enfonce au cœur de l'organisation, sa loyauté sera mise à l'épreuve, dans une poursuite implacable contre l'un des gangs les plus cachés et puissants de Paris.
Un policier sous couverture. C'est toujours quelque chose qui nous plaît parce que on se pose, on se demande comment ça se passe d'infiltrer quelque chose et de se faire passer pour une personne du groupe. Alors des fois on voit des choses pas très catholiques et il faut juste donner des informations, mais ça ne suffit pas pour faire tomber le réseau. Et il faut aller plus profond. Et le problème, c'est que quand on va plus profond, eh bien, on se perd soi-même. Et c'est ce qui risque d'arriver à Michael, parce que lui, c'est un policier, il veut faire son devoir. On lui demande, parce que il fait partie de cette communauté, et on lui dit, il faut que tu infiltres cette mafia, il faut que tu sois vraiment nos yeux et nos oreilles. Et ça va être très 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 compliqué pour lui. Et en même temps, ça va nous apprendre beaucoup de choses sur les taboules. Ça va nous montrer quelque chose qu'on connaît pas, des quartiers, une communauté, des coutumes qu'on ne connaît pas non plus. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une ouverture d'esprit. Alors oui, il y a cette enquête, oui, il y a ce thriller, à se demander s'il va franchir la ligne ou pas. On peut se poser plein de questions. Michael est interprété par Laurens Valin, le réalisateur du film. C'est son tout premier et je vous propose de l'écouter en interview.
Bonjour Laurens.
Bonjour.
Nous sommes au Festival International du Film de Muret, où vous venez présenter Little Jaffna, votre petit bébé.
C'est exactement ça. On va dire mon premier film. Et je suis assez fier et assez content que le film puisse être sélectionné dans de nombreux festivals. Et donc là, je rencontre plusieurs publics différents et ça, c'est chouette.
Vous êtes derrière la caméra et vous êtes aussi devant en tant que personnage principal. Quel a été votre ressenti?
C'est très intense et en même temps, j'ai appris comme ça, en fait, depuis mon premier court-métrage, en fait, j'ai toujours joué et réalisé. Et donc, il y a un endroit où pour moi, le fait d'être avec les comédiens, au milieu des comédiens et de jouer avec eux, ça les rassure, parce que la plupart des comédiens qui sont avec moi, c'est des non-professionnels. Et le fait d'avoir le réalisateur avec eux, ça les rassure énormément. Et moi, quand ils ont peur, je leur dis, moi aussi j'ai peur, les gars. et on va le faire ensemble. Donc il y a un endroit comme ça où ça les rassure et moi en même temps je suis au cœur de la création pour pouvoir les diriger comme j'ai envie de les diriger. Par contre, en tant que comédien, moi j'ai quelqu'un qui m'observe de l'autre côté de la mise en scène, parce que quand on est comédien, quand on termine de jouer une séquence, dès qu'on entend couper, on va regarder quelqu'un pour se dire est-ce que c'était bien ou pas. Et moi, je vais pas me regarder moi dans un miroir en me disant alors c'était bien. Donc j'ai quelqu'un qui est là uniquement pour moi, un coach qui est là uniquement pour moi, pour me dire si c'était bien ou si je devais continuer. Et donc avec lui, j'essaie de me synchroniser. Et quand lui il me dit que c'est bien, si moi je le sens aussi, je vais vérifier au combo. Et quand c'est bon, je passe à la séquence suivante.
Vous montrez un quartier de Paris que certains ne connaissent pas, avec les tamouls, les tigres. Comment ça vous est venu cette idée de mettre en lumière ce quartier et surtout, je vais pas dire le côté mafia, le côté parrain, le côté non, je parle plutôt de la solidarité et de l'entraide, voire même de frères et de familles qui existent.
Après, je rebondis sur cette question parce que c'est important. Je sais que à travers le film de gangster et parfois on va me dire que pourquoi représenter la communauté mal parce que c'est des voyous et peut-être c'est pas une meilleure représentation. Pour moi, je sais que c'était à travers un film de gangster, on arrive à c'est un film de genre et donc il y a des codes qui sont assez universels et qui permettent au plus grand nombre de comprendre l'histoire et de rentrer dans cette histoire. Et donc moi c'était important d'un coup de me dire je fais pas un film pour les Tamouls mais je fais un film pour tout le monde et que d'un coup en fait l'idée pour moi c'était de faire venir aussi des gens qui sont en dehors de la communauté et d'un coup de découvrir cette communauté. Et c'est vrai que quand on rentre dedans, pour moi, c'était tous les préjugés qu'on peut avoir sur une communauté qu'on connaît pas. Bah, quand on rentre, par exemple, dans la fête de Ganesh au début du film, on est dans un truc très mystérieux, très sauvage, où on a l'impression que c'est dangereux, et il y a tout un truc où le son fait que on n'est pas à l'aise. Et à la fin du film, quand on revient à la fête de Ganesh, d'un coup, on a passé un moment avec eux, et le fait de les connaître, on se dit qu'on connaît, en fait, ces gens, plus ou moins. Et c'est moins des étrangers, et c'est plus des personnes qu'on arrive à déchiffrer mieux. Et donc, c'était pour moi, ce qui était très important pour moi dans le film, c'était d'un coup, ces étrangers qu'on a l'habitude de pas voir, qui sont une minorité, qu'on voit très peu, d'un coup de mettre une lumière sur elles et de dire ça c'est leur histoire, c'était très important pour moi. Et aussi le truc très classique que dans un film d'infiltration, on se dit bon bah le mec va pour infiltrer un groupe terroriste et en fait il infiltre une famille. Et donc là c'est les émotions. Et ça pour moi c'était aussi la force du groupe qu'on avait où d'un coup l'infiltration en elle-même a été moins importante. Ce qui nous intéressait plus dans le film, c'est la plongée de ce policier dans cette communauté. Et la fraternité et la solidarité que peut avoir cette communauté, bah elle est vraiment réelle. Et ça j'ai voulu la mettre, je l'ai imbriquée dans ce film de gangster entre guillemets, où d'un coup où on a énormément de faits qui sont réels. Mais derrière, je vais mettre ma fiction à l'intérieur et je vais l'emmener ailleurs. Mais pour moi, il y a énormément de choses qui sont très proches de cette communauté-là. Et c'est vrai que quand on est issu de cette communauté, souvent, on va nous dire qu'on est les représentants. Sauf que je suis pas le représentant de la communauté tamoule. Moi, je me représente moi tout seul. Le film, je le signe pas de la communauté tamoule, mais c'est bien un film de Lorenz Valin. Donc, il y a un endroit où c'était très important pour moi de dire c'est une nouvelle représentation. Je parle de ce qui est proche de moi, que ce soit la question de la double identité ou du conflit au Sri Lanka dans lequel moi j'ai grandi depuis que je suis gamin. Et donc c'était ça qui était important pour moi, mais je l'ai fait d'une manière plus divertissante, on peut dire ça comme ça. C'est pas un gros mot, j'ai voulu faire vraiment un genre de blockbuster d'auteur à mon niveau avec un premier long. Et donc j'ai essayé de mettre le spectacle au cœur du film avec le budget qu'on pouvait avoir. Ouais.
Est-ce que c'était un souhait de montrer, par exemple, des scènes où toute la communauté va à un moment donné chanter une chanson dans une salle de spectacle, ou à un moment donné il va y avoir un moment donné à l'église où tout le monde va se réunir. Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on peut dire de la communauté tamoul? Est-ce que c'est des traditions qui se fait souvent?
Le cinéma, en fait, par exemple, tout ce qui est la fête de Ganesh, le cinéma où il y a énormément de figurants, en fait, c'est des vrais moments d'événements. C'est des vrais événements dans lesquels moi je suis parti tourner avec mon équipe. Et donc c'est des trucs qui existent vraiment. Et ça, c'est l'endroit pour moi, c'était de vraiment. Pour un premier film, j'aurais jamais eu l'argent, le budget pour rassembler autant de monde à l'écran. Et donc, c'est des événements comme ça dans lesquels on a pu rentrer à l'intérieur et s'immerger totalement comme un documentaire. Et après, derrière, je mettais ma fiction à l'intérieur. Et donc, ça, c'était très important. Et par exemple, la scène de procession, c'est vraiment des processions qui ont eu lieu. Par contre, là où moi, je mets ma fiction, c'est qu'ils sont habillés en tenue traditionnelle. Là où moi, j'ai mis mes idées où je voulais de la couleur un peu partout, où je voulais amener quelque chose de qu'on n'a pas l'habitude de voir nous dans une église traditionnelle, qu'on a l'habitude de que ce soit nous on l'a tourné à Amiens cette séquence. Et c'est vrai qu'on n'a pas des gens colorés comme ça qui arrivent à Amiens et donc pour moi c'était ça que j'avais envie de d'un coup imprégner une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc de cet endroit-là, je me suis dit que le travail du costume par exemple, je demandais à chaque fois à la costumière, je veux voir ton travail comme dans un film d'époque. Parce que souvent, quand on parle dans une fiction réelle, on va dire, je ne veux même pas sentir les vêtements, je veux que ça soit normal dans la vraie vie. Et en fait, moi, je disais à chaque fois, je veux pas être dans la vraie vie, je veux être dans mon univers à moi. Et mon univers à moi, il est plein de couleurs. Et souvent, un film de gangster, c'est souvent sombre, dur. Et moi, je me disais, ça sera dur, ça sera sombre, mais pas de la même manière qu'on a l'habitude de voir. Et donc, c'est vrai que plein de scènes comme ça, où vous voyez de la couleur partout, ou notamment une scène sur le toit, où on se dit, mais c'est une scène qui fait peur. Et en même temps, il fait beau, il y a les oiseaux qui chantent, le soleil, il y a un endroit où on se dit, il fait beau, on serait bien, sauf qu'on n'est pas bien à cet endroit-là. Alors que ce genre de séquence, on pourrait le faire la nuit, dans un endroit sombre, dans un lac, à côté d'un truc, pour après jeter le cadavre. Et je me disais, maintenant j'ai envie de le faire sur un toit, devant tout le monde. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça marche, parce que d'un coup, on se dit, il y a quand même plein de fenêtres qui sont là, à Paris, est-ce que c'est possible de faire ça? Et pour moi, c'est aussi une manière de me dire, en fait, est-ce que j'ai réussi à faire entrer le spectateur dans mon univers? Et quand on y croit, pour moi, le pari, il a été bon, quoi.
Et justement, au début, on frôle le personnage d'Aya. Mmh. On dit, il est là, c'est un commerçant, mais il dirige quand même un peu. Et c'est là, sur ce toit, où on découvre le vrai visage d'Aya. Le fait que c'est lui qui dirige. Mmh. C'est lui qui décide, qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Et en fait, il suspecte tout. Même le plus petit des détails. Il regarde, il lorgne, et il se pose des questions. Surtout sur votre personnage. Quand il lui dit, t'es arrivé il y a 4 ans et tout. Ouais. Et comment il s'appelait ton père? Et en fait, ce qui est beau, c'est que votre personnage va apprendre aussi de son histoire. Parce qu'au début, il refuse cette histoire. Et avec sa grand-mère, c'est aussi très fort. Ces connivences, cette complicité qu'il y a et qu'elle lui ouvre les yeux, qu'elle lui dit mais parce que lui il regarde les images à la télé, il se dit c'est de leur faute, on envoie de l'argent, c'est pas bien, la guerre continue, c'est horrible. Et en fait elle lui dit oui mais quand t'as pas de terre, t'es perdu, tu n'es plus personne, tu es sans identité et donc tu dois tout faire pour retrouver cette fierté, retrouver cette envie de vivre.
Pour moi, c'était très important que tous ces personnages, en fait, qui gravitent autour de Michael, amènent une profondeur dans lui, sa réflexion sur sa quête d'identité. C'est que, tout simplement, moi, quand j'ai grandi, quand j'étais gamin, j'étais pas fier de mes origines, j'avais l'impression de les cacher, de les dissimuler, et c'est un peu comme ce personnage qui, d'un coup, met ça de côté, et dans son chemin, ça arrive à lui, et donc il doit connecter avec, et il a pas tous les éléments, et petit à petit, en fait, il y a des morceaux qui s'emboîtent. Et pour moi, c'est tous les éléments que la grand-mère amène, ou que Aya ramène à des endroits, en fait, c'est des personnages qui sont très différents l'un et l'autre, mais dont Michael a besoin dans sa trajectoire pour comprendre d'où il vient. Et ça, c'était quelque chose où je sais que, par exemple, des simples gestes, manger avec les mains, par exemple, quand je les avais écrits dans le scénario, les gens me disaient, mais ça fait pas une scène, en fait, on s'en fout que le personnage, il mange avec les mains. Et en fait, quand on le voit sur image, d'un coup, sans aucun dialogue, sans aucun mot, en fait, on voit un personnage qui connecte à sa culture. Et qu'on voit cette évolution-là, d'un coup, on se dit, au début, il arrive pas à manger, et d'un coup, on le voit manger très, de manière à l'aise quand il est dans l'église et qu'il commence à manger. C'est même pas le sujet, mais d'apercevoir ça, et après de repartir dans un truc de tension. Pour moi, c'est des petits moments comme ça où d'un coup, ça procure cette sensation d'être entre les deux. Et pour moi, c'était très important dans le film, c'était d'un coup se dire que le personnage principal, il devait pas choisir entre sa culture française ou sa culture d'origine, mais c'est d'un peu de jongler avec les deux et de comment il va jongler avec les deux. Et c'était ça qui était important pour moi du début à la fin. C'est pas Michael est un policier français, il découvre ses origines et il devient un gangster et fin de l'histoire. Michael est un policier français. À la fin, Michael est un policier français. Par contre, il a connecté avec une partie de lui. Et maintenant, c'est comment il va jongler entre les deux. Et ça, c'est le chemin où c'est en, il est en cours de réflexion. Donc, c'est un peu quelque chose que j'avais envie de laisser, parce que même maintenant, c'est toujours des réflexions que je peux avoir en me disant, voilà, c'est toujours délicat d'être entre les deux et de savoir à quel moment on doit balancer pour l'un ou pour l'autre. Et donc, on doit apprendre à être avec les deux.
Moi, j'ai une question un peu qui m'a taraudé pendant tout le film. Est-ce que c'est vous qui l'avez voulu, ou est-ce que c'est dans la communauté tamoule que la plupart des acteurs de votre film, ils ont une couleur sur les cheveux? Que ce soit vert, bleu, orange, est-ce que c'est voulu ou pas?
Ça, c'est moi. Je pense que j'ai un truc avec les colorations capillaires chez les hommes. J'ai ça depuis mon premier film où c'était moi qui m'avais, sur le Little Jaffna, le court-métrage que j'avais fait, je m'étais coloré en blond platine. Et après, derrière, à chaque fois, les comédiens, je leur faisais des teintures. C'est un peu une... On pourrait dire ça que si dans les films de Lorraine, il y aura toujours quelqu'un qui sera coloré. Mais j'aime bien ce côté un peu excentrique d'un coup, qui sorte un peu de l'ordinaire d'un coup. Je me dis, bon bah, dans la vraie vie, quand j'ai commencé à faire ces colorations-là aux jeunes, ils me disaient, ah non, mais non, je peux pas rentrer comme ça dans mon quartier, c'est la honte, les copains ils vont se foutre de moi. Et je leur disais, mais non, moi mon but, mon projet, c'est que quand le film sorte, les jeunes ils voient ta coupe, ils se disent, c'est ça d'être cool et de faire cette coloration-là. Et donc il y a un endroit où pour moi, de les voir comme ça, ça m'aide à être dans mon univers à moi. Ou d'un coup, je me dis, ok, ça, si je suis dans mon univers, ça fait partie du dispositif que j'installe autour. Que ce soit les voitures qui sont complètement pimpées ou les habits ultra colorés, ça fait partie de mon univers. C'est d'un coup, je me dis, le gamin de 13 ans que j'étais moi, plus jeune, en me disant, j'aimerais trop voir un film où on se sent représenté de manière cool. Eh ben là, je me dis, ben là, quand je vois des premiers retours que j'ai de jeunes qui ont vu le film issu de la communauté tamoule, c'était trop chouette parce que je me dis, ben en fait, ils grandissent avec ça en se disant, ben en fait, c'est trop stylé, ils sont bien habillés, alors que on va à la chapelle, les mecs ne sont pas colorés, il y en a pas qui ont la teinture. Ça fait partie de mon univers.
Il y a cette histoire d'amour entre Pivi et Sylvie. On le sent, on le voit, et puis en plus, il y a cette confrontation entre le frère et Pivi et le fait de se dire, tu n'auras pas ma sœur, tu n'es rien, tu es un orphelin. Elle ne doit pas être avec un homme comme toi. Elle doit être avec un homme plus élevé et qui a une famille, qui a des coutumes bien ancrées. Et c'est vrai que c'est dur parce que on voit les regards entre les deux, on voit ces rapprochements de temps en temps et ils ont toujours cette épreuve, cet obstacle avec le frère qui est là, surprotecteur, et qui en vient aux mains aussi.
En fait, pour moi, cette histoire, c'est un peu le West Side Story qu'on peut avoir. Et je me suis dit, en fait, c'était un peu une manière d'avoir un West Side Story avec des gens qui ont ma couleur de peau. Je me suis dit, voilà, c'est aussi une manière d'amener ça d'un coup, une histoire d'amour un peu classique à la Roméo et Juliette, où on se dit c'est l'amour impossible. Et pareil, c'est que ça a aussi traduit quelque chose de très proche de la communauté où d'un coup, être orphelin, c'est être considéré comme rien, en fait. Il y a un endroit où on n'a pas le droit d'avoir une famille, on n'a pas le droit d'en créer une. Et donc, c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais envie de montrer dans le film, à un endroit où, en fait, les orphelins qui ont fui un peu la guerre au Sri Lanka, qui sont arrivés en France, ils ont été un peu délaissés pour compte. Et même au sein de la communauté tamoule, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer. Et pour moi, en tant que réalisateur, c'est très important de mettre une lumière sur une minorité qu'on a très peu l'habitude de voir. Et déjà, chez les Tamouls, les mecs de bande, par exemple, c'est une minorité qu'on a envie de cacher. Donc, je me suis dit, bon, bah, parmi la minorité, je vais aller chercher une minorité. Et donc, tous ces jeunes garçons que j'ai pu caster, c'est vrai qu'il y a un endroit où, quand j'aurais parlé de l'histoire de tous ces orphelins, c'était un peu... Il y avait un film de Robin Williams, comme ça, à l'ancienne, Peter Pan et les... Je sais plus comment il s'appelle, c'est un film de Peter Pan, mais revisité...
Hook,
avec les enfants perdus.
Oui, tout à fait.
Et c'est un peu ce... Pour moi, c'est un peu ces inspirations-là. D'un coup, on se dit, bon, bah, une bande de gamins qui se retrouvent et qui sont livrés à eux-mêmes et qui grandissent... qui s'auto-éduquent et qui arrivent à avoir, une certaine liberté que le personnage principal n'a pas finalement, et qui a été grandi dans une certaine discipline, une rigueur, quelque chose de, voilà, je dois réussir, je dois m'intégrer dans la société française, et d'un coup, de se confronter à ces jeunes, eh ben, il y a une forme de liberté, d'une connexion qui se passe, qu'il n'a pas ressenti, et donc, c'est là que ça prend, quoi, cette étincelle.
Ce film, pour moi, il passe par beaucoup, par exemple, de tensions, de regards, etc., surtout avec le personnage d'Aya. C'était vraiment voulu, parce que je trouvais qu'à chaque fois, le chef de la communauté, avec son regard juste, il arrivait à dire des paroles que les autres n'arrivaient pas à dire.
C'est pour moi, j'aime beaucoup les. En tout cas, c'est un endroit où j'aime bien quand l'image suffit, sans avoir des dialogues pour nous expliquer ce qu'on voit. Et donc, j'essaie d'avoir d'éviter le peu de dialogue, le mieux je me porte. Et donc, il y a un endroit où à chaque fois, dans ma démarche de réalisateur, j'essaie de chercher, de me dire comment j'arrive à retranscrire ce qu'on va voir à l'image sans explication, sans machin. C'est juste si, par exemple, une manière de monter, par exemple, on coupe le son et on monte les images. Et on regarde le film et on essaie de voir si on comprend ce qui se passe, sans qu'il y ait les dialogues. Et les dialogues, quand on les met, c'est pour nous amener d'autres éléments, des éléments qui ne sont pas à l'image. Et donc c'est là où, pour moi, il y a quelque chose qui se passe, notamment dans le personnage d'Aya ou même dans le personnage principal, c'est que juste des regards peuvent largement suffire à des endroits de tension pour se dire « Ok, il se passe mille choses et j'ai pas besoin d'avoir, par exemple, mon personnage qui va dire « Oh, là, j'ai peur ». Et on peut, parce que c'est là où, pour moi, dans certains films, c'est pour moi un manque de confiance de se dire « Ok, j'ai besoin d'expliquer ça parce que le spectateur ne va pas comprendre ». Moi, je fais confiance au spectateur et je me dis « Voilà, je préfère être dans ce truc où je donne le peu d'informations, mais en même temps, chaque détail est ultra précis dans le film où j'essaie de, à chaque fois, je laisse rien au hasard. Il y a vraiment à chaque fois un truc qu'il y a dans le film » où j'essaie de me dire, voilà, ça a une raison pourquoi je mets cet habit. Par exemple, un truc tout bête que j'ai en tête là, qui me vient à l'esprit, c'est par exemple la chemise qu'on offre à l'anniversaire de Aya, très colorée. Et à la fin du film, c'est avec cette chemise que Aya meurt. Et donc, c'est un peu, il part avec le dernier cadeau que ses enfants lui ont fait. Et donc, c'est des petits trucs comme ça, pour moi, que visuellement, quand on regarde, on comprend. En même temps, et que peut-être on va pas le voir la première fois, mais peut-être à la deuxième fois qu'on va le regarder, on se dit ah, mais en fait c'était. Mais moi j'adore faire ce genre de truc parce que c'est des films comme ça que moi quand je regarde, j'aime beaucoup me dire voilà, rien n'est laissé au hasard, il y a pas un truc qui est gratuit. Et donc pour moi, même le dialogue, il faut qu'il soit important et qu'il soit nécessaire, sinon je le coupe.
C'est vrai qu'on est sous tension, qu'on suit les personnages, qu'on se demande ce qui va arriver. Michael, à Peavy, à Sylvie, à tous les personnages. Et puis, il y a des moments de pause, il y a des moments de réflexion et surtout des moments très risqués où ils rencontrent la personne de la DGSI pour lui faire des rapports, pour lui expliquer des choses. Il y a beaucoup de regards là aussi et de temps, de silence où ils profitent. Et on sent qu'elle est là pour le soutenir. Et en même temps, elle est obligée de lui donner des objectifs à atteindre.
Pour moi, c'était un enjeu qui était assez complexe dans un film d'infiltration. On s'attend à voir plein de scènes de la DGSI. Et il y a une série sur la DGSI qui a été faite où moi, je vais pas révolutionner la DGSI. Donc, je me suis dit, et je veux surtout pas aller là-dedans parce que c'est pas ça qui m'intéressait. Et je me suis dit, en fait, il y a un endroit où on a tous plus ou moins les codes de ce qui peut se passer entre un espion et une responsable. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait avec ces deux personnages-là? Et c'est vrai que tout le long du process, ça a été toujours quelque chose qu'on a longtemps questionné en se disant, bah, en fait, ces scènes-là nous servent à nous raconter ce qu'on a déjà vu. Et donc, il y a un endroit où il faut pas que ça nous ramène un truc où, d'un coup, on voit deux agents qui sont en train de nous dire ce qu'on vient de voir à l'écran à l'instant et de nous dire, bon, bah, on vous fait une traduction si vous avez pas compris, les gars, il s'est passé ça dans la séquence. Et donc, pour moi, je me suis dit, bah, en fait, ce qui peut être hyper intéressant, et ça, on l'a vraiment eu à un moment donné dans le montage, c'est que d'un coup, de laisser des moments de silence comme ça avec les deux, d'un coup, on se dit, bon, en fait, le compte-rendu, il a été déjà fait. Et là, on les retrouve juste après. Dans un moment où ils sont tous les deux là, présents, et que la mission doit avancer, et donc c'est lourd. Et donc, à un moment où on se dit, en fait, ça fait partie de son travail. Il est policier. On fait un rappel à chaque fois quand on arrive dans ce lieu qui est un peu bizarroïde, un théâtre qui est un peu coupé de tout la chapelle. Je me dis, c'est un endroit où lui, il est là et il est sans façade. Il est flic. Et il a enlevé tout son masque de d'infiltré. Et là, il est le plus vrai possible. Même quand chez sa grand-mère, il est dans une posture. Et là, avec elle, il est au naturel. Et c'était très important, du coup, de le découvrir sans aucun dialogue, juste d'être avec eux, de partager ce moment-là avec eux. C'était assez précieux parce que d'un coup, on se disait, bon, bah, en fait, c'est la vraie vie, en fait. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être ça que je vais essayer d'insuffler dans ces moments-là d'enquête, plus que les trucs techniques de, oui, alors, t'as posé le beeper, le traceur, le machin, le truc, fais bien ton travail. Je me suis dit, en fait, non, ça reste des humains, et qu'à un moment donné, quand lui, il est en train de flancher, eh ben là, elle essaye de le réconforter, mais à un endroit où ils sont pas du tout dans le même rapport, parce que elle est pas au contact de ces gens-là, elle n'est pas en train de les trahir, et donc c'est ça qui se joue entre eux.
Dans le genre de pousse-pousse, moi, ça m'a beaucoup plu. Ça. Ouais. Je me suis dit, c'est complètement décalé, c'est complètement. Mais en même temps, c'est un endroit où ils prennent pas de risques, où ils sont, ouais. ils sont cachés, et c'est mieux de se rencontrer là que dans la rue ou autre.
Je voulais pas justement créer un endroit de, comment on pourrait dire ça, de faire du faux suspense, d'un coup de se dire ouais alors là on va les ramener à la chapelle, et parce qu'après on va se poser des questions d'un coup, mais pourquoi ils se rencontrent là-bas? Et donc j'avais vraiment besoin de faire un endroit à part, où d'un coup on sait que c'est un endroit qui est isolé de l'enquête, et que comme chez sa grand-mère, où on se dit d'un coup quand les garçons arrivent chez la grand-mère, on se dit le danger arrive. Et donc on n'avait pas besoin de connecter ces espaces-là, on avait besoin d'avoir une figure où on se dit ok, ils travaillent pour cette entité-là. Et en fait, quand elle arrive à la fin pour le secourir, d'un coup, on sait qui est ce personnage-là. Elle le suit depuis le début. Donc, il y a vraiment un truc du début à la fin où on sait qu'il est chapeauté par une organisation. Et donc, c'était vraiment cette partie-là. Parce que voilà, il y a un endroit où je me suis dit, pour un premier film, faire un film d'infiltration, c'est pas, on va dire, le truc le plus facile à faire. Et je me suis dit, je voulais vraiment pas rentrer dans un film d'infiltration pur. Je voulais l'amener dans un truc où ce qui m'intéressait plus, c'était la plongée de l'infiltré dans cette communauté.
Quelle a été votre scène qui a été le plus dur à faire, que ça soit en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur? Si c'est la même, je ne sais pas, mais
je pense naturellement à une scène où la scène de cascade où je cours quand je percute le transporteur de fleurs, je me casse le poignet.
Waouh.
Je me casse le poignet, et ça c'était la première semaine de tournage. Il en restait 7 derrière. Donc, en tant que réalisateur et en tant que comédien, je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué, qui a été le plus dur, parce que derrière, il y avait cette semaine où j'arrivais pas à bouger le poignet. Et on m'avait fait une attelle sur mesure où je pouvais les enlever pendant les prises, et après derrière, je devais le remettre. Et ne serait-ce que il y a une séquence où je suis en train de manger au restaurant avec une assiette, avec la fourchette, j'arrivais à peine à tenir l'assiette. Elle était trop lourde pour moi. Et ça a été tout le challenge pour moi en tant que comédien, c'est de que le spectateur ne se rende même pas compte, parce que là, du coup, dans ta tête, tu te dis, alors est-ce que sa main a bougé ou pas? Mais moi, ça a été tout mon souci de comédien, de pas sentir ce truc de parce que derrière nous, par exemple, quand je me fracture le poignet, le lendemain, on a encore cette séquence de cascade où je dois me battre avec le gars quand il vient vers moi. Oui. Et en fait, j'ai peur. Moi, réalisateur, j'ai peur de me re-blesser, parce que je me dis en fait, je suis obligé d'aller attraper la main du gars, mais si lui il fait un faux mouvement, derrière je me fais encore plus mal. Et donc il y a eu tout un truc comme ça où il y avait une tension en plus qui s'est mise en place, parce que voilà, il y avait ce truc qui était un imprévu. Et en même temps, avec du recul, c'est un endroit où quand je suis acteur, j'ai souvent tendance à dépasser les limites, à ne pas à être là à me dire par exemple, la scène où je traverse la rue en pleine rue comme ça et je cours de la poissonnerie jusqu'à la rue d'en face, il y a personne qui bloque. Moi, je commence à courir comme ça, je dis continue à filmer, je commence à courir comme ça, la circulation, elle s'arrête pas pour le truc. Et en fait, il y a un moment donné, on se dit on n'est pas il y a un moment donné où c'est invincible, et que le fait de s'être fracturé le poignet, ça m'a un peu redescendu en tant que comédien, où je me suis dit il y a un film à terminer, j'ai encore 7 semaines de tournage, donc va falloir que je modère un peu le truc. Et c'est vrai que en tant que réalisateur, il y avait toujours cette dualité dans mon cerveau de le comédien qui veut tout faire pour que ça soit le mieux possible, et donc de pas chercher à jouer. Et il y avait le réalisateur qui était dans la tête, qui me disait ouais, mais quand même là, il faut faire attention, parce que à un moment donné, il faut que tu tiennes 8 semaines de tournage, quoi.
La dernière question, ce sera sur la musique.
Ouais.
Parce que vous parlez justement de cette scène où vous courez, et on sent cette tension, et puis au moment où il y a des obstacles devant, il y a justement le son qui devient différent, et puis quand il y a le gros boom, mais la musique donne cet entrain, donne ce mouvement aussi bien sur la tension, sur l'émotion, la joie et les doutes. Comment vous avez travaillé la musique avec est-ce que la personne était là dès le début à l'écriture du scénario, enfin je veux dire, elle a lu le scénario, elle vous a dit on pouvait mettre ça sur comme musique, ou alors c'était au montage que vous êtes mis dessus?
Le compositeur, je vais vous raconter la rencontre avec le compositeur, ça a été très très cool. C'est que le moment où je le rencontre, on avait plusieurs compositeurs qui venaient se présenter, et c'était dans le cadre d'une résidence dans laquelle on avait été sélectionné avec le film, très en amont d'une résidence d'écriture. Et en fait, le compositeur arrive, et à chaque compositeur, on leur demande c'est quoi ton film préféré, et ils nous sortent des références. Et donc lui, il arrive, et Maxence Dussert. Et je lui dis, du coup, donc c'est quoi ton compositeur préféré? Et là, il me dit Hans Zimmer, Dark Knight avec Batman. Et là, je me dis, waouh! Parce que il y a un côté où faut y aller dans ce genre de truc, de proposition. Et souvent dans le cinéma, du coup, sud de l'Inde, donc c'est le cinéma Hollywood, la musique est très présente. Moi, j'ai grandi dans ce cinéma-là, où la musique, on fait pas un truc où... Pareil, c'est comme dans le costume, on se dit, on veut pas voir la musique, on veut pas l'entendre, on veut juste la sentir. Moi, au contraire, je dis, je veux entendre ta musique, je veux la ressentir. Et donc, il y a un endroit où, quand il m'a parlé de Batman, je me suis dit, ok, lui, on va bien accrocher ensemble. Et donc, quand on a commencé à discuter, on a discuté vraiment dès le scénario, on a commencé à en parler en amont. Et il m'avait fait écouter des choses sur lesquelles il travaillait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis resté accroché sur les chœurs féminins qu'il avait à un moment donné travaillé. Où je me suis dit, il y a beaucoup de garçons qui sont représentés à l'écran, et je me suis dit que de contrebalancer ça avec des voix féminines, un cœur féminin qui arrive comme ça et qui prend le dessus, c'était aussi de ramener leur sensibilité à eux. Parce que souvent, on a l'impression, quand on voit une tonne de Lascar comme ça, d'un coup, on se dit, ouais, bon, ça va être un truc très bourrin et tout. Et en fait, je dis qu'il y a beaucoup d'amour aussi dans ce film. C'est pas que de la violence. C'est énormément d'émotions et d'amour qu'il y a dedans, et cette fraternité que j'avais besoin de souligner. Et c'est vrai que les voix comme ça qui nous portent, bah, ça nous amène à un endroit où on s'attend pas justement à ce genre de proposition. Ce que je disais à mon compositeur, c'est il faut qu'on soit surpris. Il faut pas qu'on soit dans un truc convenu où ah c'est une scène d'action et donc on va avoir un truc où c'est des drones et qu'on est là en mode bah là on va voir un truc sombre. Moi je lui ai dit bah là par exemple la séquence quand les garçons se confrontent, j'ai fait là on va aller dans du western.
Oui,
et on va oser, parce que mon univers permet d'aller dans ce truc là où d'un coup je lui dis mais on s'en fout de la réalité. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on soit dans ma réalité à moi. Et donc, pour moi, le moment où ils se font face, et que on a l'impression d'être dans un Sergio Leone à un moment donné, où il y a tous ces jeux de regard, et on me dit, mais c'est pas du tout un western, on est juste dans la chapelle avec des tamouls. Bah, pour moi, c'est une manière de me dire, bah, en fait, les codes, je les prends et je les réapproprie pour les mettre dans mon univers à moi. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé la musique du film. Donc, on a été vraiment, tout le long. En fait, on avait déjà la musique du film, des ébauches, en tout cas, qu'on avait sur le tournage. Donc, je les mettais sur le tournage pour être dans l'ambiance. Et au montage, pareil, en fait, on a tellement travaillé en amont que, en fait, on a fait la musique quasi sur du mesure, quoi. Vraiment, il y avait un truc où tout le long, on parlait. Et je pense qu'il y a eu une vraie connexion de moi, réalisateur, à lui, compositeur. Et on parle souvent par des mots-clés avec les compositeurs. Et donc, souvent, moi, je disais le mot épique. Je veux que ça soit épique. Il faut qu'il y ait un côté épique. Il faut qu'il y ait un côté. Et c'est vrai que, on le ressent quand il y a des moments comme ça de course, qu'il y a les oiseaux qui volent. Ça, c'était pas prévu. Ça, pareil, je suis en train de courir. On me dit, il y a 3 pigeons. Je suis d'accord. Je cours et là, je vois une centaine de pigeons. Je fais, qu'est-ce que, moi, je me bats avec des pigeons. Et on se dit, en fait, ce qui est beau, c'est les accidents. C'est que d'un coup, on se dit, il y a un truc vrai qui se passe. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le cinéma. C'est que d'un coup, on se dit, bon, bah, je sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, je suis dans cette fiction et je me laisse porter dedans, quoi.
Merci beaucoup, en tout cas, Lorenz.
Merci à vous. Merci pour vos questions.
Merci pour ce premier film.
Merci.
Ça a été assez compliqué à faire un film comme ça. C'est vraiment quelque chose qui lui a demandé beaucoup, beaucoup d'investissement. Beaucoup de cœur, il a fallu motiver les équipes, trouver un distributeur, des producteurs. C'est pas évident quand on sort de la famille, c'est que c'est notre premier bébé, c'est un long métrage. Bien sûr, en général, on commence par des courts métrages, on fait beaucoup de choses comme ça. Il en a fait, mais c'est vrai que quand on a le premier long métrage qui arrive, il faut avoir les épaules solides. Et je pense qu'on peut dire que Lorenz Valin a les épaules solides parce que il a vraiment fait un travail d'orfèvre. Il a ciselé comme il fallait. Il a bien monté son film. Il a mis les intrigues comme il fallait. Des personnes qui pouvaient l'aider, enfin qui pouvaient aider son personnage Michael. D'autres qui pouvaient lui mettre des bâtons dans les roues. Une histoire à la Roméo et Juliette qui est dedans aussi. Bah oui, deux communautés, deux façons de voir les choses, des familles rivales à la Roméo et Juliette, voilà. Et puis aussi ce côté mafieux, ce côté sombre, ce côté un peu malaisant. Là où on se dit, en fait, il est tout le temps en danger, puisque sa couverture peut tomber à n'importe quel moment. Et on a vraiment peur pour lui. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est tenu en haleine, qu'on est captivé et qu'on se demande ce qui va lui arriver. Et je pense que c'est vraiment réussi de la part du réalisateur Lorenz Wallin, qui est aussi scénariste. Alors, il l'a pas écrit tout seul, le film. Il l'a écrit avec Marlène Post, Gaël Massé, Malison Bourrasrami, Yacine Badet et Arthur Beaupère. Oui, il faut des visions différentes, et je trouve ça assez intéressant aussi que ce soit des visions féminines ou masculines. Ça apporte quelque chose, ça permet de consolider ce scénario qui nous emmène dans les coulisses de la mafia et dans ces côtés austères d'un flic sous couverture. Alors, il y a d'autres acteurs et actrices, hein, bien sûr, qui font partie de la distribution. Je suis désolée si j'écorche les noms, parce que franchement, des fois, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de leur rendre justice. Il y a Puvviraj Ravendran, qui joue le rôle de Puvi. Il y a Vela Ramamurthy, qui joue le rôle d'Aya. Il y a Radhika Sarakumar, qui joue le rôle d'Amama. Marilou Ossiyou, qui joue le rôle de Chloé. Cosi Chandran, qui joue le rôle de Selvi. Sajintan Santiran, qui joue le rôle de Kazi. Voilà, j'ai réussi. Mais tous ces personnages sont importants, vous verrez, ils vont se mêler. Il y en a qui vont être des bâtons dans les roues à Michael. Il y en a qui vont l'aider, il y en a qui vont être importants pour lui. D'autres qui vont être là en support et puis en même temps qui vont le pousser dans ses retranchements, et je trouve ça intéressant. Donc n'hésitez pas à découvrir Little Jaffna, qui arrive au cinéma le 30 avril et vous allez avoir une avant-première. Alors, une autre occasion sur Toulouse de découvrir ce film, au cinéma L'ABC à Toulouse, en présence du réalisateur Lorenz Wallin, qui sera présent. Ça fait toujours plaisir de pouvoir rencontrer un réalisateur, de pouvoir discuter avec lui. Je sais pas ce que vous en pensez.
C'est sûr que ça ramène quand même quelque chose. On se sent plus concerné par le film, et surtout que même si on a des questions ou si on a des interrogations sur le film, s'il peut venir, franchement, c'est le mieux. Moi je trouve que ça fait toujours plaisir, un réalisateur qui fait le déplacement pour aller voir le public, pour aller voir les ressentis. Ça doit être important pour lui évidemment de les avoir, mais ça fait toujours plaisir de voir que le film, il y a vraiment des gens derrière, parce qu'on regarde toujours un écran et de voir, ok, lui il a fait le film, donc c'est toujours intéressant de voir les réalisateurs.
Et il sera présent pour le Festival des cinémas indiens de Toulouse, qui a lieu du 23 au 27 avril. Ce sera la 10e édition, et Lorenz Wallin accompagnera son film le 25 avril à 20h30 au Pathé Wilson pour une présentation et un débat, bien sûr, avec le public. Alors, soyez au rendez-vous, prenez vos places, parce que oui, comme le disait Raphaël, c'est toujours un bon moment quand on rencontre le réalisateur, qu'on peut débattre avec lui et avoir quelques petites anecdotes et quelques histoires sur la genèse du film.
நம்ம எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்கணும்.
இதுதான் போலீஸ் வேலையா?
இப்ப வேலைய பத்தி கிடைக்காதீங்க.
இத்தனை நேரப்பு கட்டி காட்டு கொண்டு இருக்கிறது எனக்கு தானே தெரியும்.
Tu peux me parler d'eux?
Ils se font appeler les Kilis. C'est une race de perruches colorées qu'on trouve au Sri Lanka.
Kilis!
Et Aya?
Tout le monde a peur de lui. C'est le plus grand argentier des tigres tamoul en France.
En train de payer.
Tu saurais où poser un traceur?
Sa principale source de revenus reste le trafic de clandestins.
Eh, ma gueule! Ah bah, hein!
Alors, quand tu peux me dire ça, ni qu'un mot pour y dire, non?
Oui, sur le rêve.
C'était Chaud Devant, Festival international du film de Muret avec Little Jaffna. Merci beaucoup au réalisateur Laurence Valin pour son interview. Merci Maëlane.
Merci Vanessa.
Merci Raphaël.
De rien Vanessa.
Et rendez-vous le 25 avril à 20h30 pour l'avant-première de Little Jaffna au pâté Wilson. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know.